que j'ai racontée il y a de fort longtemps, il y a si longtemps que c'était un autre temps. C'est donc le premier conte que j'ai choisi. Et ce conte, je l'ai choisi non pas parce qu'il était masculin, mais parce qu'il me parlait beaucoup. Alors, je rappelle que je suis issue de tradition orale. Et là, je viens de réaliser, en discutant avec Bernard à midi, que ce n'est pas du tout la même façon d'appréhender les contes, cette tradition orale, puisque nous, on reçoit des images, des sensations. Dans beaucoup de contes, on parle le langage des animaux, et c'est vrai que ce langage du conteur en tradition orale est proche du langage des animaux qu'on retrouve aujourd'hui pour ceux qui font ce travail d'apprendre comment les animaux communiquent, c'est par image, par son, etc. Donc tout ça, c'est intéressant pour moi parce que je vois qu'on est dans des conceptions différentes et que je vais essayer de faire des ponts pour aller... soit marquer la différence que j'ai, que je considère comme un trésor, mais qui n'en est pas moins que le vôtre. Donc, on est sur des rayons différents. Donc, ça, c'est important à souligner, puisque ça va donner une autre compréhension qui est peut-être plus intuitive, mais aussi structurée, qui est transmise par les anciens, donc qui ont déjà fait tout un travail. Et nous, on reçoit cette flamme qu'on va retransmettre à notre tour. Voilà, donc ça c'était ce que je tenais à dire. Et puis ce conte, je l'ai choisi dans le répertoire de Claude Sénoniol il y a longtemps, donc avec plusieurs versions que j'avais choisies. Et je vais vous donner un petit peu le déroulé parce qu'il diffère de tout ce qui a été dit ce matin. Donc on retrouve Oriane qui est l'héroïne du début, hein, qui est la mère de Jean de Lourdes. Et au début, c'est une orpheline qui vit toute seule dans la forêt, qui va vendre des bûches de bois pour pouvoir survivre. Et par une journée en fait, d'automne très belle, elle va plus loin dans la forêt que prévu. Et là, elle est saisie par la nuit. Et il y a un ours qui l'embarque dans sa grotte. Il ferme la grotte, il en prend soin, d'Oriane. Il va chaparder à droite et à gauche pour qu'elle soit nourrie, logée, etc. Et en fait, quand arrive le printemps, Jean de l'Ours naît. Donc, on parle beaucoup de cet ours qui est magnifique, qui a un pelage ruisselant de rouge. Hein. Donc, il y a ce côté sensuel, ce côté qui est en lien avec la nature. L'ours qui est la mémoire, qui est la montagne, qui est le nord, c'est tout le patrimoine de nos ancêtres, la transmission, hein, c'est comme ça que je la vois maintenant en essayant d'analyser, et qui, moi, me touchait de façon plus intuitive à l'époque. Et ce Jean de l'Ours, il est mi-homme, mi-bête, mais au-delà d'être un monstre, c'est celui qui a intégré sa part animale et qui a l'énorme chance de pouvoir être dans l'animalité, l'instinct, et dans cette intelligence de sa mère. Donc c'est étonnant par rapport au genre, c'est la mère qui lui transmet la réflexion, et c'est le père qui lui transmet l'instinct, la puissance et la force. Et pour moi, c'est une histoire de puissance, au-delà du masculin et du féminin. Donc une fois qu'il va naître, Jean, il va apprendre avec son père toutes les stratégies de la puissance, hein, et avec sa mère, toute la curiosité, mais ça ne lui suffit plus. À l'âge de 15 ans, il abandonne son père qui est en train de dormir, c'est un ours après tout, pour aller au village de sa mère et espérer apprendre. Et là, il est rejeté. Évidemment, il est différent, il ne se laisse pas faire et c'est toujours lui qui gagne. Hein. Donc, on l'emploie au champ, comme disait ce matin Bernard. Donc, en fait, ça devra devenir une valeur ajoutée. Sa mère sort de la misère, mais lui a besoin d'aventure. Et là, il va décider de partir pour canaliser cette force, cette puissance qui est en lui. Il va voir ce forgeron, il va tout casser, il fait sa fameuse barre de fer qui fait 100 kilos, il la prend comme une paille sur son dos. Et là, il va rencontrer, alors moi, c'est Meule de Moulin, c'est Arrache-Chêne, donc le grand escogriffe. Alors, Meule de Moulin, comme il le présente, c'est plutôt la force du taureau, c'est-à-dire qui aime bien les bonnes choses de la vie et qui est brute de décoffrage. Et Arrache-Chêne, c'est quand même celui qui arrache les chaînes, comme disait Marc. Donc, il y a quelque chose de plus compliqué par rapport à ce personnage qui est un grand escogriffe, donc qui va dans la verticale, mais pas forcément dans l'intelligence. Et ils vont partir sur le chemin parce qu'ils se croient invincibles tous les trois. Donc, on a la notion de puissance et de force qui vont s'opposer au début. Et là, sur ce chemin, ils vont rencontrer la petite vieille. Alors, moi, j'adore la petite vieille. C'est celle qui garde ses chèvres et c'est celle qui sait, qui connaît le destin. Alors moi, je fais toujours parallèle à la mythologie, donc j'ai l'impression qu'on retrouve les parcs là aussi, et que dans notre héros, ben là, il y a un peu de aussi Héraclès, hein, celui qui est fort, qui va passer les épreuves pour soutenir le monde. Donc ce Jean de l'ours est à sa quête, ça marche très bien auprès des adolescents, effectivement. J'ai pu le faire en résidence d'artiste à Grasse pendant 3 mois. Où c'est vraiment quelque chose qui va leur parler des fondements, c'est très puissant, hein. Donc là, c'est l'initiation qui commence avec cette vieille. Et cette vieille, elle leur dit, n'allez pas là-bas, il y a un château enchanté. Et eux, ils ont envie d'en découdre. Donc le château enchanté, rien à faire, on y va, on est invincible. Ils partent sur le chemin, il y a ce grand château illuminé où tout semble être vivant. Mais il n'y a personne, il n'y a pas âme qui vive. Et on a l'impression que la cuisine, il y a encore le bon plat qui chauffe dans la cheminée, donc ils se restaurent, ils vont se coucher, ils sont un peu inquiets, mais comme c'est des gros gars bien costauds, ils n'ont pas peur. Et à travers ces trois personnages, là, il n'y en a que trois, il y a Jean de l'Ours, Meuble de Moulin et Arachène, moi je vois les trois facettes d'une même personne, en fait. Hein. Ce sont les faces de la force qu'on peut imaginer, comme on le retrouve dans beaucoup de contes, où il y a toujours les trois frères. Voilà, il y en a toujours un qui est pur et les deux autres qui sont torves, qui sont prêts à trahir. Donc, c'est peut-être des facettes de nous-mêmes. Et donc, ils vont se répartir, effectivement, s'organiser. Donc, le premier jour, c'est Meule de Moulin qui va faire la cuisine et il va voir un petit homme à tête plate, nu de la tête aux pieds, qui a une baguette de coudrier. Et qui va lui parler de façon irrévérencieuse, qui lui dit, hé gros lard, sers-moi un peu du plat, j'ai une de ces faim. Alors tu lui dis, non, mais petit minus, tu sais à qui tu t'adresses. Donc là, il est sûr de lui et il se prend un coup de baguette de coudrier, il tremble comme un fou et il se retrouve sur le sol. Et les autres attendent parce qu'ils sont en train de chasser le gibier, parce qu'ils avaient un code, c'est de sonner la cloche quand le repas était prêt. Donc ils reviennent et puis ils réveillent Meule de Moulin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors Meule de Moulin a tellement honte qu'il va dire qu'il a vu un géant qui l'a terrassé. Le deuxième jour, c'est Arachechène. Alors Arachechène, il est prétentieux, il pense que Meule de Moulin pense qu'à manger, lui, il est beaucoup plus fort. Et Jean de l'Ours se retrouve avec Arachechène qui dit rien pendant la chasse. Et la cloche ne sonne pas, évidemment, puisque Arachechène a vu le petit homme à tête plate avec le bâton de coudrier, qui lui a demandé de façon irrévérencieuse de boire du vin, et celui-ci s'est dit, mais c'est toi le géant, et il se fait de nouveau taper par cette baguette, il se retrouve terrassé sur le sol. Ils reviennent aussitôt de la chasse, Jean de l'Ours et Arachechène, et là Jean dit, ben moi je vais rester là, vous allez faire la chasse, on verra. Et quand Jean est en train de préparer le gibier, évidemment, le petit homme à tête plate qui apparaît toujours derrière la cheminée va lui dire, espèce de monstre poilu, donc toujours irrévérencieux, sers-moi du vin capiteux. Et là, Jean va avoir beaucoup plus d'intelligence puisqu'il va dire, ah bon, tu veux boire du vin? Pas de souci, je t'en sers. Et il prend sa barre de fer et il donne un grand coup sur la tête du petit homme à tête plate. Donc moi, j'ai travaillé longtemps dans le dessin animé, j'ai toutes les images hein, de ce petit homme qui va vibrer autant que quand il donnait un coup de baguette aux autres. Et Jean s'empare de sa baguette et il attrape le petit homme qui était en train de s'enfuir pour aller se cacher derrière la cheminée. Il le prend par le col et il lui dit à nous deux maintenant, tu vas m'expliquer ce qui se passe dans ce château. Et le petit homme va tout révéler. C'est lui qui a ensorcelé la belle princesse qui vit dans les entrailles de la terre, dans un royaume merveilleux. Et elle est envoûtée. Et si on la libère, tout ce royaume va pouvoir revivre. Mais personne ne veut y aller parce que c'est trop dangereux. Donc Jean de l'Ours a compris. Il dit, je te lâche, mais attention, je tiens à l'œil. Il garde la baguette. Donc d'un côté, il a la barre de fer, de l'autre, la baguette de coudrier. Le petit homme disparaît derrière la cheminée et quand les deux hommes reviennent de la chasse, ils sont joyeux parce qu'ils imaginent que Jean de l'Ours va se retrouver comme eux, complètement terrassé sur le sol et ils le voient debout. Et là, Jean comprend à qui il a affaire. Ce sont deux hommes forts qui ont mis leur puissance dans leurs muscles, mais nulle part ailleurs. Hein, vous connaissez le hein, vous connaissez cerveau, cerveau, muscle, c'est exactement ce qui se passe. Mais lui n'est pas de cette trame-là. Donc, en fait, il va leur dire, vous êtes des couards. Maintenant, ça suffit, vous allez m'aider. On va descendre dans ce puits pour libérer la princesse. Donc, c'est la nouvelle mission de Jean de l'Ours. Et cette princesse, pour moi, c'est l'âme. L'âme, âme, amour, c'est la part qui manque à la force. Et la puissance est faite d'amour et d'âme. Donc, elle est endormie, elle est ensorcelée par ce petit homme à tête plate qui a la baguette de coudrier, mais c'est son pouvoir. Donc, ce pouvoir n'est pas dans l'homme, mais dans cet objet magique. Et Jean donc, va demander au premier, qui est toujours le même, Meule de Moulin, de descendre, parce qu'ils ont pris tous les draps en attendant pour descendre dans le puits, mais c'est un puits sans fond. Il a très peur, il remonte. Le deuxième a encore plus peur, et lui descend tout seul. Et quand il descend en bas, évidemment, il y a des crânes de partout. Et là, il y a les fameux dragons à 7 têtes. Et comme il est très, très, très courageux, Jean de l'Ours, il les décapite. Mais de leurs larmes qui viennent de ses yeux, de nouveaux dragons apparaissent. Et là, cette fois, il doit mener un combat terrible. Il arrive à les décapiter, mais il doit crever chaque yeux, chaque œil, pour pas qu'il se métamorphose à nouveau. Et ensuite, il entend pleurer la belle, il entend un chant, et il va suivre ce chant, et il va rentrer dans une grotte cristalline merveilleuse. Et il va continuer à suivre l'eau. Alors l'eau, c'est les sentiments, la beauté, l'appel de la nostalgie de quelque chose de plus beau. Et il va aller de plus en plus loin. Il va voir au loin ce château bleu qui est extraordinaire dans une vallée incroyable. Et là, il y a un énorme rocher. Et quand il va pour frapper à la porte du château, le petit homme à tête plate apparaît au loin et le rocher va se transformer en chat et attaquer, mais un chat géant, hein, et attaquer Jean de l'Ours. Et Jean de l'Ours, vous savez qu'il est très fort, très puissant, va sauter sur le dos du chat et va l'étouffer avec ses cuisses qui ont énormément de puissance. On le retrouve dans la version où c'est sa fameuse cuisse qui va donner à l'aigle. Là, c'est la puissance des cuisses qui étouffe le chat. Et le petit homme à tête plate, quand il voit ça, il s'enfuit, on ne le revoit plus jamais. Et Jean, qui est très puissant, se dit « la porte est fermée, je vais la défausser ». Mais non, c'est là où il commence à devenir beaucoup plus fin que ce qu'on peut imaginer. Il va sortir la baguette de coudrier, il va donner un petit coup et la porte va s'ouvrir. Donc, il a compris que la magie, la malédiction, pouvait être une bénédiction avec cette baguette de coudrier. Il pénètre à l'intérieur du château, c'est somptueux, et il y a une grande chambre carrée avec une porte incrustée de diamants, de choses très précieuses, très délicates. Et il entend des pleurs, des gémissements. Et là, de nouveau, il va donner un petit coup avec la baguette de coudrier. Et quand il voit la jeune fille à l'intérieur, il tombe éperdument amoureux. Et on dit que lui, qui avait vaincu ce qu'aucun n'aurait pu vaincre, manque tomber dans les pommes en voyant tant de délicatesse et de beauté. Et la jeune fille, en le voyant, tombe amoureuse de lui, et c'est le grand amour, évidemment. Ça veut dire qu'il a mené à bien sa quête, il a trouvé son âme et son amour, et sa puissance au service de quelque chose de plus grand. Donc, c'est le courage de cet homme. Et il va faire le chemin à l'envers avec sa belle. Et quand ils arrivent en bas du puits, il y a toujours les cordages de draps. Et au lieu de faire appel à des animaux, il prend la baguette de coudrier. Il donne trois petits coups et elle va l'amener à remonter. Et quand il arrive en haut, c'est d'abord la jeune fille qui va monter, puisque lui, il la soutient. Et là, les deux, Arrache-Chêne et Meule de Moulin, quand ils voient la beauté de cette jeune femme, ils sont jaloux. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de la prendre et de pousser Jean de l'Ours au fond du trou. Mais tout à coup, il y a un revers en voyant cette belle et leur cœur commence à s'ouvrir. Et ils se mettent à genoux devant Jean de l'Ours en le considérant comme le plus grand de tous les héros. Ils se mettent à genoux devant son courage que eux n'ont pas eu. Donc, il y a une rédemption, on va dire, entre guillemets. Et ils vont ramener la belle à son royaume, puisqu'évidemment, le roi était très triste. On dit que les oiseaux avaient arrêté de chanter, le printemps n'était plus là, le soleil ne brillait plus. Et au fur et à mesure que cette troupe arrive dans le royaume de la belle, eh bien... tout refleurit. Hein, le printemps revient, le roi est heureux, Et le roi demande à la belle qui elle veut épouser. Vous avez deviné qu'elle va épouser, c'est Jean de l'Ours. Mais lui ne veut pas se marier sans retrouver sa mère. Donc il va faire le chemin à l'envers et il va retrouver sa mère en lui disant: je t'invite à mon mariage, tu vois, grâce à toi, grâce à ce que tu m'as enseigné, grâce à la puissance de mon père, je vais devenir roi. Est-ce que tu veux venir? Et elle lui dit: non, ma place est ici. Quant à toi, je te souhaite d'être le meilleur roi possible et que ton courage donne la force à tout ton peuple. Et donc lui s'en va, il se marie, c'est une fête très belle. Et on finit sur Oriane. On a commencé avec Oriane, on finit sur Oriane, qui, le jour du mariage, va ramasser un beau bouquet de plantes sauvages, de fleurs sauvages, qu'elle va mettre devant la grotte de l'ours qui est mort de chagrin puisqu'il s'est senti abandonné. Et elle le remercie de lui avoir donné un fils si courageux, si digne. J'en ai encore des frissons, alors que j'ai dû le raconter 600 000 fois. Mais donc, c'est pour dire que ce conte, pour moi, c'est loin d'être un conte. Bien sûr, il y a un contexte social, etc. Mais c'est une histoire intérieure qui va donner du courage. Alors, je l'ai conté quand j'étais enceinte. Je l'ai conté quand j'étais enceinte et ça me donnait le courage, moi, pour être une mère. Vous voyez, c'est un conte masculin. D'être mère, parce que c'est pas rien d'être mère, hein. C'est quand même une sacrée aventure. Et des fois, le courage nous manque. On se dit, aïe, 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 d'un coup, je m'embarque, je vais pas y arriver. Et ce conte me donnait la force d'accepter mon nouveau rôle de mère. Donc, ça paraît étonnant, hein, puisqu'on dit que c'est des histoires d'hommes. Mais moi, c'était une histoire de femme. Et ça me permettait d'être en paisibilité avec ma propre puissance, qui des fois, pour certains, ça dépend de l'aide des gens. Moi, j'ai beaucoup de feu, où j'avais l'impression d'avoir des débordements, et de me dire, mais si j'utilise bien le carburant, soit je vais m'en servir pour faire avancer la locomotive, soit pour brûler la ville. Donc, il va falloir que je comprenne comment ça marche, cette histoire. Et donc, je trouvais que ce conte, bah, après, l'analysant, mais sur le moment, il me faisait énormément de bien. Je ne savais pas trop pourquoi. Et après, ou plutôt avant, j'étais allée le conter à Briançon, dans un hôpital où il y avait des gens qui étaient malades du foie pour Noël. Donc, c'était des gens qui étaient en grande souffrance. Et ils venaient de partout dans le monde, ces gens-là. Et j'avais compté, alors il y avait des gens qui étaient sur fauteuil roulant, qui ne pouvaient pas parler, enfin c'était très compliqué. Et puis je voyais les gens qui sortaient, qui rentraient, qui sortaient. Je me disais, oh là là, mais je suis minable, mon compte, je ne sais pas le transmettre, c'est horrible, je vais faire un autre métier. Et en fin de compte, à la fin, ils m'ont dit, on sortait pour aller pleurer et on revenait. Et je me suis dit, mais il est incroyable ce compte. C'est un conte qui guérit. Et moi, je pense vraiment que c'est l'âme. Il y a quelque chose qui va donner le courage, qui va donner la capacité de se reconnecter à sa propre puissance, de savoir comment l'orienter. Il y a même une dame qui était sur fauteuil roulant, je m'en souviendrai toute ma vie, qui pouvait dire oui ou non, parce qu'elle était handicapée, et que si elle devait écrire, c'était pour elle vraiment extrêmement compliqué. Et elle avait dit, j'ai beaucoup aimé ce conte, ça l'avait énormément plu, alors que pendant que je comptais, comme elle avait des difficultés respiratoires, je l'entendais qui faisait du bruit, je me disais, elle doit s'ennuyer, enfin, tout le mental que le compteur peut se faire dans sa tête, quoi. Hein. Et en fait, non, ça faisait un vrai travail. Donc là, je n'ai pas d'explication parce que...